6h03 exactement. Bonne journée. Bienvenue à l'antenne du 98.5 FM. Alors, on va regarder tout de suite les détails météo. D'abord, c'est froid. On n'a pas besoin d'insister. C'est autour de moins 20 degrés. Et ça va être froid toute la journée, mais c'est une journée ensoleillée. Quelques nuages au cours de l'après-midi. Les vents sont modérés. Mais évidemment, avec le froid, si vous travaillez à l'extérieur, ça ne sera pas une journée facile. Au cours de la soirée, nuageux, faible neige intermittente. Ça va commencer surtout durant la nuit, avec un refroidissement aussi, donc de près de moins 24. Maintenant, pour demain, vendredi, c'est de la neige, pas en quantité énorme, mais quelques centimètres quand même, maximum moins 8. Et pour le week-end, samedi, c'est du soleil d'abord, avec un maximum de moins 18, de la neige intermittente qui va commencer probablement en soirée ou fin de soirée au cours de la nuit. On parle de quelques centimètres d'accumulation pour samedi. Et dimanche, on a un bon cocktail, là, de la neige, de la poudrerie, du temps venteux et un maximum autour de moins 18. Température possiblement, donc je le disais, moins 18, mais en termes de quantité de neige plutôt, ce serait maintenant 15 cm. Alors peut-être samedi, dimanche combiné, il y aurait pour la grande région métropolitaine à peu près 20 cm de neige. Possiblement aussi pas mal de bonne quantité de neige, c'est-à-dire dans des régions plus en périphérie. Bon, on vient d'avoir cette dépêche il y a quelques minutes à peine. Vous savez qu'il y a un Canadien qui a été enlevé au Burkina Faso. Et là, on apprend ce matin que le corps d'un homme blanc tué par balle a été découvert dans le nord du pays. Donc, le corps porte des impacts de balles et on est en train de l'identifier actuellement. Alors, on sait que plusieurs ressortissants étrangers ont été enlevés ou encore sont portés disparus. Hier, on faisait état de l'enlèvement d'un employé d'une compagnie minière, le vice-président de la société canadienne Progress Minerals, qui s'appelle Kirk Woodman, qui est géologue et responsable de l'exploration minière au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire. Il semble qu'il y a un groupe qui est formé d'à peu près une dizaine d'hommes armés qui est arrivé et qui ont fouillé le camp de base, enlevé du matériel et finalement sont partis avec M. Woodman. Est-ce que ce sont des motifs politiques? Est-ce que ce sont, parce que ça existe aussi, des enlèvements criminels pour demander des rançons? Le Burkina Faso, je le disais tantôt, fait face à une série d'enlèvements. Il y a également cette Québécoise dont on est toujours sans nouvelles. On va faire le point avec Fabrice de Pierrebourg tantôt. Alors, donc, découverte d'un homme qui a été donc tué et il y a des impacts, semble-t-il, de balles. Deuxièmement, concernant la situation avec la Chine, ça demeure toujours extrêmement tendu. Il y a le fondateur de Huawei qui a remercié le Canada pour le genre de traitement réservé à sa fille qui, vous le savez, a été interceptée, arrêtée et qui fait l'objet d'une menace d'extradition aux États-Unis concernant des transactions avec l'Iran. Alors, ça vient mettre un peu d'apaisement dans le dossier. Mais en même temps, il y a l'histoire de cette ressortissante chinoise qui vit au Canada. Son père est détenu. C'est quelqu'un qui a toujours été un militant pour ce qui est des droits de l'homme, a toujours eu un discours extrêmement vigoureux sur cette question-là. Et elle se trouvait donc à l'aéroport de Beijing avec son enfant, avec son conjoint, et est en transit. Séoul, Toronto. Et puis là, finalement, des policiers sont arrivés dans l'avion. Elle a été détenue. Et on pense que ça vient s'ajouter dans l'escalade avec le dossier de ce Canadien qui a vu sa peine de prison pour trafic de stupéfiants devenir une peine de mort. Donc, interrogatoire. Et c'est sûr que, pas pour tous les Canadiens, mais il y a une certaine pression d'exercer sur des gens qui sont ciblés par les autorités chinoises. Et il y a toujours, disons, un niveau de discussion quand même très élevé. Cette histoire-là, ce matin, m'a jeté par terre dans la presse. C'est un citoyen originaire du Sénégal, Amadou Gaï, je pense, pas certain de prononcer son nom correctement, qui vient vivre ici, s'installe, travaille pour la compagnie Iron Mountains. Et il a été victime, jour après jour, de commentaires racistes, mais pas un peu, là. Ça veut dire que lui se présentait au travail et un employé en particulier le visait en le traitant, et je dois dire les mots, si on veut dire les choses clairement, le traitait de nègre, le traitait de singe, faisait des imitations, menaçait de le fouetter comme un esclave. Et même, il y a une vidéo où on le voit, le gars en question, son collègue, en train d'imiter un primate qui montre ses fesses. Et là, c'est constamment. Au point tel où Amadou devient malade. Des problèmes, évidemment, de stress, de palpitations. Et il s'est retiré de son travail, a tenté d'être indemnisé en disant que ce harcèlement, que ce racisme primaire était un accident, avait provoqué cet accident de travail et qu'on devait l'indemniser. Ça a été rejeté en première instance. Et finalement, la justice vient de reconnaître qu'il a été bel et bien victime d'un accident de travail. Il y a bien des questions qui se posent quand on lit ça. D'abord, c'était, paraît-il, su connu à l'intérieur de l'entreprise. Iron Mountains, qui ne veut pas commenter, évidemment. Alors, si c'est su et connu, comment ça se fait que ça a été toléré? Il y a des collègues de travail qui ont vu ça? Peut-être même un superviseur? On a de la misère à croire là, que c'est demeuré confidentiel. Quelles sont les mesures qui ont été prises contre cet employé? Est-ce qu'il est encore là, d'abord, pendant que l'autre est chez lui, malade? Je vous le dis, c'est un cas extrême, mais ça, il y a une responsabilité d'employeur qui, visiblement, n'a pas été assumée dans cette affaire-là. Et si vous travaillez pour la compagnie, envoyez-moi un petit courriel. Avez-vous eu vent de l'histoire? Est-ce que le gars qui a écœuré le pauvre Amadou, avec ses propos racistes, travaille encore là, lui, pas de problème. C'est quand même assez étonnant, cette histoire-là. Alors, c'est dans la presse de ce matin que vous allez retrouver ça. Marc est là, 6h11, on commence par quel secteur? Très bien. CBC a obtenu des documents de Transport Canada au sujet de cette fameuse question, est-ce qu'on doit ou pas mettre des ceintures de sécurité dans les autobus scolaires? Et, bon, plusieurs prétendent que c'était pas nécessaire, que la configuration d'un autobus, les sièges coussinés protégeaient adéquatement les enfants. Mais, donc, ces études tendent plutôt à prouver le contraire, que dans les cas de collision latérale, les enfants seraient mieux protégés avec les ceintures en question, parce que ça, et on comprend facilement, là, évite que des enfants frappent le côté opposé de l'autobus ou carrément être éjectés de l'autobus dans le cas d'une perte de contrôle ou en tout cas d'un accident plus violent. Il y a déjà des autobus aux États-Unis qui sont équipés de ces ceintures de sécurité, mais il y a une question de coût et il y a beaucoup de propriétaires de compagnies d'autobus qui ne veulent pas avoir à assumer ce coût additionnel et qui disent que ce n'est pas nécessaire. Le ministre fédéral Marc Garneau dit qu'il va en discuter avec les collègues des autres provinces lors d'une conférence lundi prochain, ici à Montréal. Le dossier Royal Mount, ce vaste complexe touristique commercial à la jonction de la 15 et de la 40, fait l'objet d'un débat. Et là, on a senti beaucoup d'opposition. C'est pas compliqué. Ville-Mont-Royal veut ça. Le conseil du patronat, la Chambre de commerce, évidemment, est en faveur. Hier, on disait, entre autres, venez pas nous dire que ça va causer des problèmes de circulation. Venez nous dire comment vous allez éviter qu'il y ait des problèmes de circulation. Mais là, vous allez implanter ce projet privé de 2 milliards avec des restaurants, des salles de spectacle, commerces, hôtels. Ajouter dans le coin des unités d'habitation parce qu'il n'y a pas que ce projet-là. Il y a d'autres projets également qui sont prévus. C'est déjà congestionné du soir au matin. Et là, il y a des études qui laissent entendre que le volume de circulation pourrait augmenter de 20 %, ce qui fait que vous allez peut-être perdre 15, 20, 30 minutes, 40 minutes de plus dans le trafic. Alors, là, il faut trancher. Et là, c'est Montréal qui fait partie du lobby. Et là, il y a évidemment l'impact sur la circulation, mais aussi plusieurs disent que c'est la compétition déloyale. Ça, à mon point de vue, c'est pas un gros argument. Mais l'autre argument, c'est que c'est un modèle d'affaires, cette espèce de 10-30 en ville qui est dépassé selon plusieurs, et c'est pas ce que l'on souhaite dans une planification urbaine. Je vais parler avec le maire de Ville-Mont-Royal un peu plus tard ce matin, mais hier, là, on a senti la vague de fond venant de Montréal, Et je me souviens d'en avoir parlé avec Valérie Plante, entre autres. Je ne sentais pas, disons, l'euphorie concernant ce projet. D'autre part, on va parler de la Société québécoise du cannabis et de la Société des alcools du Québec. Il y a un mouvement hier, je ne sais pas si vous avez vu, là, des gens qui veulent relancer l'idée qu'on puisse aller déposer nos bouteilles de vin à la Société des alcools pour les récupérer. Et ça, là, c'est un autre débat. C'est comme les ceintures des autobus scolaires, là. Des groupes de pression, des individus qui lèvent la main en disant « ça n'a pas de bon sens de gaspiller autant ». Et on lance des chiffres sur la consigne qui pourrait évidemment rapporter de l'argent, ça pourrait être recyclé de façon plus efficace. Et la Société des alcools du Québec refuse, disent qu'ils ne veulent pas être pris avec le volume de bouteilles. Bon. Et d'ailleurs, ça pose de façon plus globale la question du recyclage au Québec. J'entendais le nouveau ministre de l'Environnement dire qu'il y a peut-être, je ne dirais pas un bris de confiance, mais une certaine méfiance des Québécois sur ce qui se passe dans le traitement de leurs déchets. Et la question des bouteilles, c'est une maudite bonne affaire. Tu sais, on consomme des bouteilles de vin, on met ça dans le bac. Est-ce que vraiment c'est recyclé? Pas au maximum et sans doute beaucoup moins que si, par exemple, la Société des alcools du Québec s'en occuperait. L'autre affaire concernant le cannabis. Tu sais, le concept soviétique qu'on a implanté ici, là, c'est-à-dire des beaux magasins, mais des tablettes vides, puis des magasins pas attrayants parce qu'il ne faut pas que ça ait l'air trop vendeur. Là, nous, on appelle à la Société québécoise du cannabis. On veut savoir ce qui arrive avec ça. En vendez-vous du pot? Les tablettes sont-elles regarnies? Qu'est-ce qui se passe? Ah là, puis on n'est pas prêt, puis on va vous donner une entrevue plus tard. Bon, ce matin, là, 3 mois, c'est dans le devoir, 3 mois après la légalisation du cannabis, les tablettes sont toujours dépourvues de la majorité des produits. La société d'État cherche toutefois à minimiser cette pénurie, censée durer plus d'une année encore, selon plusieurs experts, estimant que les produits les plus recherchés par les consommateurs, soit les fleurs séchées, sont désormais disponibles en quantité suffisante. Et là, on a tous les mots des relations publiques, là, genre, l'approvisionnement demeure un défi. Peut-être qu'il faut être agile aussi dans la façon de déployer les produits. Alors, je fais appel à mes auditeurs, consommateurs de cannabis. Comment ça se passe avec l'État? Commande en ligne ou encore dans les succursales? Trouvez-vous ce que vous cherchez? Avez-vous l'impression que c'est comme pas mal compliqué, qu'il y a des délais ou pas? Je veux savoir votre son de cloche là-dessus concernant les achats en question. L'autre chose, c'est Mike Ward. On sait qu'il conteste cette amende de 42 000 $ qui lui a été imposée dans l'affaire de Jérémy Gabriel. Et on va écouter justement Mike Ward qui commente tout l'exercice et l'amende à payer imposée par la Commission des droits de la personne.
Amener un humoriste qui fait de l'humour noir en cours pour une joke trash, ça serait comme donner un ticket à Vin Diesel parce qu'il chauffait vite dans Fast and the Furious. Je trouve ça dégueulasse. Mais je vais continuer à me battre. Je fais de l'humour noir dans la vie. Fait que je vais continuer à faire de l'humour noir.
C'est vrai qu'il fait de l'humour noir. T'as le droit de pas aimer, là. C'est correct. Il a fait ça dans le cadre d'un spectacle. Personnellement, là, je trouve pas que ça mérite une amende. Est-ce que c'était dur comme blague sur Jérémy Gabriel? Puis je veux pas la rappeler, là. Je la connais, la blague, là. Je veux pas la rappeler. Ben oui, c'était dur, c'est sûr. Puis il y en a dit des plus durs que ça encore. C'est la nature de l'humour. Puis là, si on décide qu'on commence à mettre des amendes en fonction de, je trouve ça spécial un peu. Alors, on verra la décision qui sera prise par le tribunal. On parlait de bouffe tantôt. Il y a une étude qui sera rendue publique aujourd'hui, qui est dans le Globe and Mail ce matin. En gros, là, plus de la moitié de la bouffe produite au Canada finit dans les poubelles. Et pendant longtemps, on a attribué la large part du gaspillage aux consommateurs, aux familles. Or, l'étude montre que c'est l'industrie qui génère le plus de pertes. Et à une certaine époque, on évaluait que les pertes alimentaires au Canada, sur une base annuelle, c'était autour de 31 milliards. Et là, les chiffres tendent à démontrer que c'est quand même énorme. Et qu'à travers le monde, c'est le tiers de la bouffe qui se ramasse à la poubelle. Tu sais, on est dans un débat de comment nourrir la planète. Je regardais ce matin dans Le Monde un article, c'est comment nourrir 10 milliards de personnes en 2050. Et là, les experts disent pas plus qu'un steak par semaine, des fruits et des protéines végétales. C'est la recette parfaite pour une bonne santé planétaire. Peut-être, mais il y a peut-être aussi la question à se poser sur la gestion des stocks, sur la façon dont on consomme. Puis, je regardais hier des photos qui circulaient sur Twitter, entre autres, sur le suremballage. C'est incroyable. Je voyais des photos là, que des gens ont captées dans des supermarchés. Puis moi-même, je le constate quand je fais des courses. Là, il y a une limite à vouloir tout emballer. Un. Deux, je parle même pas de la bouffe. Parlons des commandes en ligne qu'on fait. Tu sais, on décide de pas sortir. On fait ça à la maison. Et là, on se fait livrer des colis. Quand vous ouvrez le colis, là, ça n'a pas de bon sens. Là. Je comprends qu'on veut pas que le produit soit abîmé. Mais il me semble que c'est vraiment là du gaspillage de plastique, de carton. Ah, les gars. Alors, cette étude, donc, va être rendue publique aujourd'hui. Et on a hâte de voir aussi le Guide alimentaire canadien qui a fait jaser pas mal. J'ai vu la réaction. C'est un travail préliminaire, là, quand même. Mais qu'est-ce qu'on dit en gros? Ben, c'est que les priorités alimentaires doivent être basées sur des notions de santé et non pas d'économie. Donc, peut-être moins de consommation de produits laitiers. Là, j'ai vu, bien sûr, les producteurs aux barricades et leurs syndicats. Mais la réalité, c'est que le Guide alimentaire canadien était basé pendant des décennies sur des considérations économiques, c'est-à-dire sur le producteur de blé, producteur de lait, producteur de viande, alors que les études montrent que sur le plan de la santé, il y a d'autres, et on vient de le dire, là, sur le plan végétal, par exemple, pour aller chercher des protéines. Alors, on verra la version finale, mais il y a tout un lobby, un puissant lobby à multiples têtes qui s'est déployé pour tenter d'influencer les gens de l'industrie. Je pense que ça fait pas mal le tour de nos manchettes. On va s'arrêter là-dessus. Il est 6h22. On y va avec le Pont Mercier.